Voilà, le pré-cate aussi va descendre. Vous êtes attendus. Voilà, je vais prier pour l'offrande et remettre le culte, le message de tout à l'heure. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que jour après jour, nous pouvons avoir assez et nous l'avons vu dans notre dernière assemblée d'église. Tu pourvois nos besoins. Seigneur, merci pour chacun dans cette salle qui a participé à ton œuvre en donnant ce qu'il avait à cœur. Et je te demande de bénir maintenant cette nourriture d'argent qui va nous permettre maintenant de faire vivre cette église. Et Seigneur, maintenant que tu bénisses ceux qui l'utilisent, ceux qui exploitent cet argent pour que ton règne avance. Je te remets aussi maintenant ce message que va nous apporter Valérie, que ton esprit parle à travers elle et que ses paroles viennent de toi, Seigneur. Que tu ouvres aussi nos oreilles pour que tu puisses nous parler de notre quotidien, là où nous sommes. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Voilà, alors moi, ça fait aussi 8 mois comme ça que je n'ai plus prêché, donc c'est vrai que je ne suis plus tout à fait habituée. Dans le programme de nos cultes, nous avons planifié 2 cultes s'intitulant « En marche vers Pâques à travers le désert ». C'est pas ça que je voulais. Voilà, on marche vers Pâques à travers le désert. Pourquoi ce titre? Pourquoi cette démarche? On marche vers Pâques. Comme vous le savez bien, tout grand événement demande une préparation, souvent une préparation à la hauteur de l'événement. Pensez à une fête, par exemple, que vous avez faite, ou que vous allez organiser, par exemple, vos 20 ans, vos 30 ans, 50, 70, 90 même, ça demande une préparation. On pense d'abord aux personnes qu'on pourrait inviter, aux lieux appropriés pour accueillir, à un repas, à des animations. Toute cette organisation prend du temps pour que le jour J, on puisse vraiment bien profiter. D'ailleurs, la plupart des grandes étapes de la vie ne se font pas sans préparation. Un mariage, par exemple, Laetitia et Thomas savent de quoi je parle, ça demande beaucoup de préparation. L'arrivée d'un enfant, en principe aussi, ça se prépare. Acquérir un métier, accéder à des postes à responsabilité, à une carrière politique. Et même la retraite, il semble que c'est mieux d'y songer à l'avance et d'y préparer. Dans l'Église, on aime bien préparer Noël des mois à l'avance. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que pour la fête, une des fêtes chrétiennes les plus importantes, Pâques, on s'y prépare souvent assez peu. Pourquoi? C'est vrai qu'une partie des raisons sont historiques, mais je pense qu'il n'y a pas que cela. L'idée, bien sûr, c'est pas de vivre une préparation à Pâques stressante, légaliste, ou bien de ressembler à d'autres familles chrétiennes, pas du tout. Mais peut-être est-il nécessaire de redécouvrir l'essentiel. Savons-nous, ou plutôt vivons-nous Pâques comme l'événement des événements, totalement extraordinaire, sans lequel on serait juste pas là ce matin? Si je devais dire avec mes mots ce qu'il y a pour moi de complètement renversant, de complètement presque incroyable, ce que je dirais que ça représente pour moi Pâques, je dirais que pour moi, l'ordinaire, c'est que la mort suit la vie et que l'extraordinaire de Pâques, c'est que c'est la vie qui suit la mort. Et être porteuse de cela en soi pour soi puis pour les autres qu'on rencontre, c'est vraiment juste génial. Pâques, c'est l'événement des événements, et sans préparation, ça me semble difficile d'en saisir toute la saveur. Et puis, on marche vers Pâques à travers le désert. Le désert, dans la Bible, c'est un lieu très présent, dès les premières pages de la Bible, Abraham, Moïse, Élie, ils passent par le désert. Souvent, ça a été des lieux où ils ont été éprouvés, testés, tentés, comme on va le voir aujourd'hui avec Jésus. Les grands hommes de la Bible, en fait, ne sont pas tellement différents de nous. Eux aussi, ils ont connu leurs heures de vérité, de découragement, l'envie de tout lâcher, par exemple comme Élie qui demande même la mort à Dieu. Mais ce qu'il y a de génial, c'est que ces temps de désert, c'est aussi des temps où ils ont grandi spirituellement, où leur foi a été boostée, où ils ont fait des choix importants, bref, en fait, des temps forts, où ils ont vécu vraiment des vrais Pâques, c'est-à-dire des vrais passages de la mort à la vie, des vrais passages d'une situation sans issue à une ouverture, etc., etc. Alors voilà pourquoi on a décidé de mettre ces deux cultes à Pâques pour se préparer à vivre pleinement cette fête. Aujourd'hui, j'aimerais prendre avec vous la traversée de Jésus dans le désert. Lui, le Fils de Dieu, a eu aussi ses temps de désert, au propre comme au figuré. Lui aussi aurait pu tout laisser tomber, tout lâcher, mais il ne l'a pas fait. Et je vous invite à méditer ce texte sur les tentations selon l'évangile de Matthieu. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répliqua, il est écrit, « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, « Tout cela je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laisse et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Jésus, là, vient de vivre un moment fort dans sa vie. Pour juste restituer le récit dans le contexte de Matthieu, Jésus vient de recevoir le baptême. Tous ceux qui ont passé par les eaux du baptême témoignent souvent que ça a été une étape décisive dans leur chemin de foi. Lui, Jésus, au moment de son baptême, il vit quelque chose d'assez particulier puisqu'il reçoit une sorte de déclaration d'amour comme ça devant tout le monde de la part de son père en personne qui lui dit « Ceci est mon fils très cher ou bien-aimé, comme on voit souvent dans les traductions, dans lequel je prends plaisir. » Et cette parole va être déterminante pour Jésus, elle va l'accompagner toute sa vie jusqu'à sa mort, être source de conflits avec les autorités religieuses, avec sa famille, etc., etc. Entre le moment où Jésus reçoit cette parole, « Celui-ci est mon fils bien-aimé », et le moment où il entre dans son ministère, il vit ce temps charnière des tentations. Un moment crucial, une sorte de test déterminant pour lui, mais aussi pour nous. Alors, qu'est-ce qu'un moment test pour nous aujourd'hui. Je dirais que pour moi, c'est des moments clés où est mis juste en pleine lumière ce qu'il y a vraiment au fond de moi, c'est-à-dire qui je suis vraiment, en quoi, sur quoi, en quoi je crois vraiment et ce que je veux ou vise vraiment dans la vie. Et là, j'ai juste mis l'image de l'huître avec la perle. Ce n'est pas des choses qui se voient comme ça en plein jour, mais c'est des choses qui nous habitent au plus profond et qui se manifestent souvent lors d'étapes charnières, lors de décisions importantes, et puis ça dans n'importe quel domaine, spirituel, familial, ecclésial, mais aussi lors d'étapes où on n'a pas décidé. Et là, je pense aux pertes, aux deuils, aux séparations et aux tentations, comme on le voit maintenant avec Jésus. Jésus, tout fils de Dieu qu'il est, va expérimenter la tentation dans sa chair, épreuve non choisie qu'il va traverser seul, souvent comme nos épreuves. Et nous, faisons-nous cette expérience? Sommes-nous tentés? Êtes-vous tentés? Suis-je tenté? En général, il faut bien le dire, c'est quand même pas un sujet qu'on aime beaucoup parler entre nous, comme si la tentation, c'est reconnaître qu'on est tenté, ça fait honte, ou comme si tentation rime avec péché, sexe, argent, pouvoir, dépendance de toutes sortes. Puis peut-être que si je vous pose la question, êtes-vous tenté, es-tu tenté, vous allez me dire, mais de quoi ? Pour moi, tout va bien, je ne suis pas accro à l'alcool, je n'ai pas de dépendance sexuelle ou un produit, ma vie de chrétien, mais ça va vraiment bien. Pourtant, Jésus a expérimenté la tentation dans sa vie et il me semble que si lui, il l'a vécu, à plus forte raison, nous. Mais peut-être qu'on ne sait pas très bien de quoi sont faites nos tentations. C'est pourquoi je vous propose de voir de quoi ont été faites celles de Jésus, comment il les a vécues, comment il les a affrontées, comment il les a traversées. Et peut-être que l'exemple de Jésus te rejoindra, nous rejoindra dans notre quotidien. Peut-être aussi que nous nous rendrons compte finalement que l'expérience de la tentation est une expérience humaine, toute humaine, que la honte ne résout rien, que s'en cacher, en tout cas à Dieu et à soi-même, ne nous aide pas à avancer spirituellement parlant. Alors je résume vite comme ça de quoi ont été faites les tentations de Jésus. Donc dans la première, il n'a pas mangé depuis 40 jours, donc il finit par avoir faim, excusez-moi du terme là, il pète la dalle. Et là, le mot qui est utilisé dans le texte, c'est le tentateur, littéralement, celui qui fait tomber, a une parole déjà tordue. Si tu es le fils de Dieu, je ne sais pas si là j'ai... Ouais. Si tu es le fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Deuxième tentation, on monte d'un cran. Le terme utilisé, c'est le diabolos, le diable. Diabolos, celui qui veut couper, séparer. Et qui a une parole, si tu es le fils de Dieu, de nouveau, là, il faut tourner l'oreille, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera ses anges, etc., etc. Et quand je dis qu'on monte d'un cran, c'est dans le sens qu'il utilise, lui, les Écritures pour les tordre, pour les manipuler, pour arriver à ses fins. Et là, c'est une stratégie connue, déjà dans le serpent ancien, dans la Bible, c'est réutilisé. Le diable fait prendre la parole et tordre, mais est-ce que nous, nous en sommes vraiment épargnés de prendre les Écritures, nous chrétiens évangéliques, de les utiliser et puis de les utiliser pour arriver à nos fins? Entre parenthèses. Et enfin, dans la troisième tentation, le diable propose à Jésus la domination et la gloire, pour autant qu'il tombe à ses pieds, que Jésus tombe aux pieds du diable et l'adore. Alors, prendre chacune de ces tentations et puis les voir comme ça à fond, ça m'a semblé un peu gourmand pour ce culte, donc j'ai choisi juste de m'arrêter sur la première tentation en relevant deux points. L'astuce de l'esprit du mal. Ce qui surprend au premier abord, quand on lit le texte, c'est de voir l'astuce de l'esprit du mal. Son astuce qui consiste à s'approcher de Jésus et comme à attendre le bon moment pour tenter de faire tomber Jésus. Vous avez certainement observé que le diable, il ne vient pas à n'importe quel moment vers Jésus, genre après les noces de Cana, quand voilà, il y a eu un bon banquet. Non, il attend que Jésus ait faim. C'est comme si le tentateur attend que Jésus soit en état de faiblesse, en état de manque, pour lui proposer quelque chose d'alléchant. Et il me semble que juste déjà là, il y a un enseignement pour nous. Parce qu'un état de faiblesse, un état de manque n'est pas réservé uniquement aux personnes anxieuses, dépressives, dépendantes, addictives ou je ne sais quoi. Chacun de nous a ces moments de faiblesse et de manque, et c'est bien normal puisque ils sont constitutifs juste de notre humanité. Cela dit, mieux ces faiblesses et ces manques seront connus, reconnus, mieux nous pourrons résister à celui qui veut juste profiter de ces brèches pour nous faire tomber. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de surestimer nos manques et nos faiblesses, mais juste d'en être conscient pour pouvoir y être vigilant. Et là, il y a un texte biblique dans l'évangile de Matthieu qui me semble bien dire cela. « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Souvenons-nous que le tentateur n'est pas tendre avec nos faiblesses, n'est pas tendre avec nous et n'est pas indifférent à nos faiblesses et à nos manques. Et puis le deuxième point, après avoir choisi le bon moment, le tentateur propose à Jésus une démonstration de pouvoir en s'appuyant sur quelque chose de pas anodin puisque c'est sur son identité. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors, est-ce que le diable doute de l'identité de Jésus? Est-ce qu'il veut faire douter Jésus de son identité? Cette question a fait couler beaucoup d'encre parmi les spécialistes de la Bible, les exégètes, les biblistes. Pierre Bonnard, qui est un bon commentateur, que je sais que plusieurs connaissent par ici, propose de comprendre. Puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Je trouve ce commentaire respectueux du texte grec, de sa syntaxe qui est quand même très précise et du contexte aussi. Mais pour le dire, pour revenir à dire quelque chose de tout simple, le dire simplement, c'est comme si le diable s'approche de Jésus et lui dit « Ok, Fils de Dieu, tu l'es. » mais démontre-le en utilisant le pouvoir qui est le tien. Transforme ces pierres en pain. Et là, c'est tentant quand on a la dalle. Dans le fond, le diable il propose à Jésus de se nourrir lui-même par son pouvoir. Et là, Jésus, entre parenthèses, contrairement à Adam, c'est une lecture possible du texte, va dire non, va résister. Pourquoi? Parce que Jésus, il ne veut pas se couper de son Père, il ne veut pas vivre pour lui-même et ni par lui-même. Jésus décide de dépendre de Dieu. Et s'il peut prendre cette décision dans un moment si difficile, c'est parce qu'il sait que son Père connaît ses réels besoins. Et c'est le sens de la parole que Jésus cite, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus sait, Jésus a cette confiance que le Père ne s'occupe pas seulement de ses besoins physiques, mais aussi de ses besoins spirituels. Et nous, de notre côté, savons-nous, avons-nous cette foi ? Cette confiance que le Père connaît nos réels besoins. Savons-nous qu'il est le mieux placé pour nous nourrir ou cherchons-nous ailleurs, dans des personnes ou en nous-mêmes, par nos propres moyens, notre vraie nourriture. Je soulignerai encore une autre raison pour laquelle il me semble que Jésus a refusé la proposition du tentateur. C'est que Jésus n'a pas approuvé son identité de fils de Dieu et encore moins au moyen du pouvoir. La manifestation de l'identité vraiment authentique de Jésus ne sera pas dans ses actes miraculeux, mais au contraire dans un don de soi, allant jusqu'à la pauvreté, au dépouillement et à la mort. Rien de spectaculaire, ni de séduisant, ni pour attirer les foules, parce qu'il n'y aura juste plus personne à la croix. Finalement, Jésus affronte et traverse la tentation, pas tout à fait seul, comme je l'avais dit avant, mais avec l'Esprit, puisque c'est l'Esprit qui l'envoie au désert, avec les Écritures qu'il a longuement médité et qu'il peut utiliser au bon moment pour se fortifier. Il ne discute pas avec l'ennemi, il n'entre pas dans un jeu de pouvoir, mais il choisit, et j'insiste sur ce mot, il choisit d'aimer Dieu et de dépendre de lui. Lorsque je posais la question au début de prédication, es-tu tenté, êtes-vous tenté? Spontanément, il me semble qu'on est, excusez du terme, tenté de répondre non. Non, parce qu'on associe souvent la tentation avec l'abus de substance, bref, toutes ces choses. Et certes, je ne voudrais pas minimiser ces tentations parce que c'est des vraies tentations. Et simplement, mon propos, c'est de dire qu'il me semble que la tentation recouvre un domaine plus large et surtout plus profond et qu'il est difficile de s'en soustraire. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, la vie chrétienne n'est de loin pas un long fleuve tranquille. Alors bien sûr que je ne regrette pas de suivre le Christ, des joies, des occasions de le louer, des bénédictions, des cadeaux, j'en ai reçu beaucoup. Et puis pourtant, aimer Dieu et dépendre du Père à l'image de Jésus ne me semble pas l'exercice le plus simple. Combien de fois suis-je tentée de répondre à mes besoins moi-même ou à chercher ma nourriture ailleurs, dans des personnes que je trouve bien, tout ça, des ministères, ailleurs que dans ma relation avec le Père? Et puis, aimer Dieu lorsque ça m'arrange, lorsqu'il me bénit, lorsqu'il me guérit, lorsqu'il répond à mes prières telles que je me l'étais imaginée, ça me semble relativement simple. En revanche, lorsque aimer Dieu est marcher à la suite du Christ indépendamment des guérisons telles que je me l'étais imaginée, des réponses à mes prières qui ne sont pas comme j'imaginais, ça me semble déjà juste un petit peu plus difficile. Parce qu'aimer Dieu ne relève certainement pas que d'émotions, de sentiments, comme quand on est en prière, dans un beau moment de louange, devant un beau paysage ou une œuvre d'art. Je me dis que si Jésus nous avait aimés juste de cette sorte d'amour-là, ça aurait été difficile qu'il aille jusqu'au bout de sa mission et qu'il affronte tout ce qu'il avait à affronter. Aimer comme Jésus a aimé, ça me paraît être autre chose. Un amour plus proche du don, un amour qui ne ramène pas tout à soi, intéressé, mais un amour qui donne et se donne. Et donner est si naturel aujourd'hui. Se donner va-t-il vraiment de soi? N'est-il pas tentant de vivre aujourd'hui en Suisse, une vie chrétienne qui non seulement ne me coûte pas, ne me dérange pas, ne me décentre pas, mais qui en plus doit absolument m'enrichir, répondre à tous mes besoins familiaux, psychosociaux, idéaux d'église, etc., etc., afin que je ne sois surtout pas en manque. Jésus a vécu une vie pendant laquelle il a aimé jusqu'à tout donner, y compris sa vie. Il a tout perdu jusqu'à en mourir, mais le Père lui a redonné la vie. Et cette vie, encore une fois, il ne l'a pas gardée pour lui, mais l'a partagée avec nous. Ce n'est pas la mort qui suit la vie avec le Christ, mais la vie qui suit la mort. Et ça, c'est l'espérance la plus extraordinaire qu'on puisse avoir. C'est le cœur de notre foi. La mort et la résurrection du Christ, c'est le fondement de notre foi qui ne peut s'ébranler, qui ne peut subir de tsunami. Alors que cette méditation sur les tentations du Christ et ce temps qui précède Pâques soit l'occasion pour nous de rechoisir d'aimer et de suivre le Christ en dépendant du Père et avec la force de l'Esprit. Amen.